Henri Rochefort, Fantasmagorie, à Monsieur Paul Bocage. C'est, chers confrères, dans le but avoué de mettre de nouveau votre cité à l'épreuve, que je vous adresse le récit d'une aventure incroyable, fantastique, fabuleuse et cependant véridique. Aventure moitié gaie, moitié sinistre, qui vous fera rire ou pâlir selon la disposition du moment, et aventure enfin à faire croire à toutes les tables tournantes, parlantes et éternuantes. Il y a 2 mois environ, je m'en retournais chez moi, l'esprit et l'estomac légers, afin de vous ôter la ressource de plaider l'ivresse. J'éprouve le besoin de vous avertir que le champagne ou le punch ne joue pas le plus petit rôle dans l'histoire qui va suivre. Je revenais, dis-je, entre 11h30 et minuit, rêvant, je crois, à l'avenir du macadam et des redingotes longues, tout en regardant sur mon chemin les noms des boutiques. Distinction que je vous recommande à vous, qui faites des pièces, lorsque j'aperçus, de l'autre côté du trottoir, un jeune homme de ma taille et de ma tournure, qui, sans affectation apparente, suivait invariablement ma route, et semblait même régler son pas sur le mien. Je m'en inquiétais guère, et nous continuâmes à marcher, moi du côté des numéros pairs, et lui des numéros impairs, en suivant tous deux une ligne identique, parallèle. Et au bout d'un certain temps, toutefois, cette persistance m'étonna. « Oh, si ce monsieur en veut à mon argent, dis-je, il fait bien du chemin pour peu de choses. » Cette supposition, d'ailleurs, était toute gratuite. Ce jeune homme n'avait rien d'un coupeur de bourse. Je lui trouvais même l'air assez comme il faut, ce qui, vous le verrez tout à l'heure, était de la fatuité de ma part. Je voulus voir cependant jusqu'où irait sa constance. Je doublai le pas, il pressa le sien. Je m'arrêtai, il s'arrêta. Oh, ce ne peut être qu'une plaisanterie. En tout cas, elle est fatigante pour lui. Je longeais la rue Richelieu, je passais le pont des Saint-Pères, je tournais le quai, non pas suivi, mais accompagné, avec le même acharnement. J'avais envie de chercher querelle à cet obséquieux personnage. Je fus retenu par cette réflexion qu'il serait très difficile de prouver quel était celui des deux qui suivait l'autre. Mais prenant à mon tour le rôle d'agresseur, je me mis à examiner mon impassible qui frisait l'impertinence. Il ne parut pas s'en préoccuper beaucoup. Mais moi, monsieur, que devins-je en reconnaissant sur lui des vêtements en tout semblables aux miens? Même paletot bleu, même pantalon gris, même chapeau retroussé des bords. C'était un plagiat complet. Oh, je me crus en pleine île du diable. À peine eus-je la force de me rechercher ce fameux hémistiche de Jules Janin, imitatore, o imitatores, servum pecus, o imitateur, servile troupeau. Heureusement, j'avais aperçu ma maison. Je me hâtais, je tirais de ma poche un passe-partout que mon portier, dont la confiance en mon or ne livre qu'à moi, seul. Et lorsque je vis mon sosie, qui en avait fait autant, ouvrir tranquillement la porte de la rue, s'enfoncer dans le corridor sombre qui mène à l'escalier, et commencer à gravir les marches d'un pas égal et mesuré. Vous décrire la révolution qui s'opéra en moi est au-dessus de mes forces. Je me rejetais violemment en arrière, en refermant vivement la porte bâtarde restée entr'ouverte, peu curieux de m'engager avec un pareil homme dans un escalier aussi mal éclairé que le mien. Enfin, après quelques minutes données à la plus franche poltronnerie, je m'élançai, résolu de tout savoir dans la maison située en face la mienne. Je passai sans être remarqué et je dévorai 5 étages jusqu'à une petite lucarne qui donne sur la rue et d'où mon regard plongeait au fond de la chambre. À peine installé à mon poste d'observation, j'entendis avec un redoublement de terreur ma porte s'ouvrir et bientôt, après la clarté de ma bougie, illumina la figure de mon fantôme dans lequel je me reconnus en... Ah, n'en pas douter. Oh, me disais-je, encore tout bas, s'il pouvait forcer mon secrétaire, car j'avoue que j'aurais donné à ce moment beaucoup plus que je n'avais pour que ma vision fût un simple voleur. Déception profonde. Je le vis, ou plutôt, je me vis m'asseoir dans mon grand fauteuil de cuir avec cette assurance qui n'appartient qu'à un légitime propriétaire, endosser ma robe de chambre, choisir dans la collection ma pipe favorite, la bourrer froidement, la déguster avec audace, tout en ouvrant, chose étrange, juste à l'endroit où j'avais laissé une marque, le volume des voix intérieures déposé sur ma table. Mes yeux s'égaraient de plus en plus, mon front brûlait à éclater. Je m'enfonçais 3 fois de suite la lame de mon canif dans la main gauche, ce qui me fit un mal affreux, d'où je conclus que j'étais malheureusement éveillé. Je fermais les yeux quelques instants, dans l'espérance que tout aurait disparu quand je les rouvrirais. Autre illusion, mon infernal portrait vivant continuait à tourner avec régularité les pages de mon livre. Mon feu flambait encore, ma bougie diminuait tous les jours, toujours. J'étais dans une stupéfaction voisine de l'hébétement. J'allais prendre le courageux parti de quitter ma fenêtre pour me rendre compte au moins du degré de palpabilité de mon apparition. Lorsque le fantôme se leva, débourra la pipe, dont il secoua avec élégance le résidu sur le coin de la cheminée, comme j'ai l'habitude de faire, ôta ses vêtements un à un, se coucha hardiment dans mes draps, éteignit la lumière, et j'ai tout lieu de croire qu'il se laissa aller au sommeil le plus paisible du monde. L'obscurité m'ôta mes héroïques résolutions. Oh, je mis longtemps encore mes regards fixés sur ma fenêtre, attendant un dénouement quelconque à cette épouvantable fantasmagorie, mais rien ne bougea, et peu à peu, ma tête s'alourdit, mes frayeurs tournèrent au cauchemar, bref, je fis comme le fantôme, je m'endormis. Si je fus à la fois surpris et honteux en me retrouvant le matin, les pieds sur un escalier et la tête dans une lucarne, je le fus bien davantage en me rappelant mon aventure de la veille. Peu grand-jour avait dissipé les vapeurs de mon imagination. J'étais humilié de mes faiblesses de la nuit. Alors je descendis d'un air provocant, je traversai la rue, et j'allais rentrer bravement chez moi. Mais la mine effarée de mon portier, ordinairement si calme, m'arrêta au seuil de la loge. « Oh, monsieur !» s'écria-t-il d'une voix enrouée par la peur. « Oh, monsieur !»« Eh bien ?»« Oh, vous avez donc bien fait de ne pas rentrer chez hier soir, chez vous. »« Que s'est-il donc passé ?»« Oh, monsieur, si vous saviez !» Oh, je vis que je ne saurais jamais rien. Je le quittai brusquement et en deux bonds, je fus à ma porte. Affreux spectacle! Elle gisait sur le palier, même enfoncée, disloquée, dégondonnée. Je pénétrai dans ma chambre. Mes meubles étaient brisés, mes tables anéanties, mes carreaux cassés. Mon lit, totalement défiguré, était enfoui sous un amas énorme de briques et de moellons. Incapable de tout autre geste, je levai les yeux au ciel, et ce mouvement machinal me découvrit le mystère. Le plancher de l'appartement supérieur s'était écroulé pendant mon sommeil. Quant à mon infortuné sosie, j'eus beau le chercher entre tous les matelas et jusque dans les fentes des bois de lit, je n'en vis au plus aucune trace. C'est pourquoi, cher confrère, j'ai pris la liberté de me renseigner auprès de vous, touchant la nature exacte de mon apparition, laquelle m'a tout simplement sauvé la vie. J'eus 15 jours de fièvre. Mais, loin de m'en plaindre, je saisis l'occasion d'exprimer ici ma haute reconnaissance à toute la famille des gnomes et des spectres nocturnes. Il y a assez longtemps qu'on calomnie les fantômes auxquels tout le monde croit sans oser en convenir. Avouez au moins qu'ils ont leur bon côté. Votre tout dévoué, Henri de Lucet.